France Inter.
Citoyens et citoyennes,
camarades,
compagnons,
travailleuses, travailleurs,
françaises, français.
Et tous les autres, bienvenue dans Enquête de politique. Aujourd'hui, le confusionnisme, les tricheurs, les fausseurs algorithmeurs dominent le monde. L'avènement du couple Trump-Musk nous envoie en pleine face cette réalité brutale. Les gros menteurs auraient gagné et la vérité aurait perdu. On veut comprendre et c'est ce que nous allons tenter de faire jusqu'à 19h avec nos invités.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Comment évolue le statut de la vérité dans le débat public? Quelle est la différence entre la réalité et la vérité? La vérité politique doit-elle être seulement basée sur les faits ou aussi sur leur perception? Et leur perception n'est-elle pas elle-même une réalité politique? Oui, mais qui forge cette perception? En 2016, lors de la première campagne électorale de Donald Trump, le concept de vérité alternative a été popularisé. La vérité paraissait devenue une opinion comme une autre. Aujourd'hui, avec l'IA, l'intelligence artificielle, la vérité serait-elle une fiction comme une autre? Les mensonges créent des réalités politiques, et ce n'est pas nouveau, le racisme est né de cette mécanique au XVIIIe siècle. Peut-on, doit-on combattre ce mensonge avec des arguments rationnels? Pourquoi, alors que le mensonge, la confusion, est aussi ancienne que la politique, souvenez-vous de ce mot célèbre du cardinal de Retz, selon lequel on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment, pourquoi nous posons-nous cette question de la vérité avec plus d'acuité et d'angoisse aujourd'hui? Sans doute parce que la complexité de notre monde interdépendant et interconnecté donne au savoir ou à l'illusion du savoir une force nouvelle. Et donc il y a un risque de technocratie. Mais le combat contre la technocratie, ne nous mène-t-il pas tout droit vers une sorte de plutocratie ou, comme on le voit aux États-Unis, vers un risque d'oligarchie? Il y a les ingénieurs du chaos qui créent ou entretiennent la confusion autour de Vladimir Poutine. Ils ont été parfaitement décrits dans les livres de Giuliano D'Ampoli. Ils favorisent les embrouilleurs et la polarisation pour miner les démocraties libérales de l'intérieur. Il y a les fanatiques religieux qui détestent la raison. Il y a tous les populistes, au premier rang desquels Donald Trump, qui noie nos débats publics sous un tapis de bombes d'annonces tempétueuses et scandaleuses pour créer un brouillard informationnel afin de pouvoir abuser du pouvoir hors de tout contrôle. Et chez nous, nous avons aussi l'industrie du mensonge, de la déjournalisation, de la polarisation, l'Empire Bolloré. Et puis, les petites mains, les petits artisans du chaos national, les amalgameurs, les confusionnistes.
Il y avait effectivement un réchauffement climatique qui était en relation avec ce que l'astrophysique nous enseigne, pas avec ce que les bobos écolos nous enseignent ou le GIEC. Il y a des cycles de réchauffement et de refroidissement de la planète depuis que la planète existe et indépendamment des hommes.
Est-ce qu'on sait pourquoi il y a plus de punaises de lit aujourd'hui? Est-ce lié à l'hygiène? Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est lié à cela?
Donc c'est efficace sur les coronavirus avec 500 mg de chloroquine par jour, il y a une amélioration spectaculaire et c'est recommandé pour tous les cas.
Alors, pour explorer ce vaste et vertigineux sujet du confusionnisme, nous sommes avec Mathias Girel, philosophe, historien des sciences, maître de conférences à l'École normale supérieure de Paris, sciences et lettres, auteur de « Sciences et territoires de l'ignorance » aux éditions Quae et co-auteur du documentaire « La fabrique de l'ignorance » que vous pouvez trouver sur Internet. Et Gloria Origi, philosophe, chercheuse au CNRS, autrice de « La vérité est une question politique » chez Albin Michel. Bonsoir Mathias Girel et Gloria Origi.
Bonsoir Thomas Legrand.
Bonsoir.
Alors vous avez reconnu quelques confusionnistes médiatiques, Michel Onfray, Pascal Praud, Didier Raoult, dans la pastille sonore que nous venons d'écouter. Par quel bout prendre ce sujet? Gloria Origi, vous affirmez, c'est l'objet de votre livre, que la vérité est une question politique. On y reviendra. Mais vous citez le philosophe américain du XXe siècle, Quine, « L'étoffe de la réalité est grise, noire de faits, blanche de convention, mais je n'ai jamais trouvé le moyen de distinguer, dit-il, les fils noirs des fils blancs. » Faut-il vraiment, Gloria Origi, distinguer les fils noirs des fils blancs? Après tout, la politique n'est-elle pas l'art de changer les états de fait? Et donc, doit-elle se nourrir exclusivement de réalité et de vérité?
Je commencerai par dire que la vérité n'est pas traditionnellement une notion politique, pour de bonnes raisons. la politique est le royaume des opinions. Et l'idée d'inventer une politique libérale, enfin, dans la modernité, c'est de, justement, essayer de trouver des systèmes d'agrégation des opinions à travers lesquels les gens peuvent continuer à penser ce qu'ils veulent, enfin, quelqu'un croire à Dieu, un autre croire à notre Dieu, etc., et quand même vivre ensemble. Mettre la vérité dans le politique, c'est un discours assez nouveau, qui a ses dangers aussi. La vérité a un aspect coercitif. Si je vous dis 2 plus 2 égale 4 et vous me dites non, ah ben je vous ferme la bouche. Votre objection ne compte pas parce que ce que je dis est vrai.
La science clôt le débat.
Oui, disons, lorsqu'on a des vérités qui sont assez robustes, solides, comme les vérités scientifiques, etc., c'est pas vraiment facile de laisser la place à l'opinion de l'autre. Donc, disons, traditionnellement, politique, royaume de l'opinion et... Par exemple, science, royaume de la vérité. Donc, c'était distinct. Puis, à un certain moment, assez récemment, je dirais, pendant les dernières 30 ans, la vérité émerge comme question politique parce qu'on se rend compte que certains mensonges amplifiés par les énormes moyens de communication qu'on a aujourd'hui peuvent faire basculer la politique en quelque chose de différent. Donc, tout ce que je dis, c'est que la vérité devient maintenant une notion politique, n'est pas une notion politique traditionnellement, c'est quelque chose de nouveau. L'introduire en politique au moment historique où nous sommes, il nous semble évident, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est victime de beaucoup de mensonges, de désinformations, de constructions de la réalité, etc. De l'autre côté, il faut le faire avec une certaine prudence et une certaine élégance. Il ne faut pas commencer à penser qu'on est... D'un côté, oui. Il y a le parti de la vérité, et de l'autre côté, il y a le parti des menteurs. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche.
Mathias Girel, cette distinction est importante. Déjà, dans l'Antiquité, les philosophes expliquaient que apprendre l'art oratoire, c'était déjà commencer à apprendre à mentir. Platon.
Oui, alors si vous faites référence au dialogue de Platon, il y a cet affrontement entre les rhéteurs, les sophistes, qui ont compris la puissance de la parole et du discours, en particulier dans l'Athènes extrêmement politique, et puis quelqu'un qui est en face, qui est la figure de Socrate, et qui demande des raisons aux puissants, avec une petite différence entre Socrate et Platon, où, alors je ne suis pas historien de philosophie ancienne, mais disons, Socrate est davantage dans la question, dans l'interpellation, et chez Platon, il y a peut-être les premiers linéairement d'un système dans lequel quelque chose comme la vérité joue un rôle important. On oppose le savoir, la connaissance, le vrai, au discours des puissants rhéteurs qui éduquent une partie de la jeunesse.
Alors Gloria Origi, vous professez l'idée que la vérité est une question politique. On va écouter Hannah Arendt, qui n'était pas tout à fait de cet avis, mais en même temps Hannah Arendt n'avait pas la 5G. Alors écoutons d'abord Hannah Arendt.
Il n'a jamais fait de doute pour personne que la vérité et la politique sont en assez mauvais termes. Et nul, autant que je sache, n'a jamais compté la bonne foi au nombre des vertus politiques. Les mensonges ont toujours été considérés comme des outils nécessaires et légitimes, non seulement du métier de politicien ou de démagogue, mais aussi de celui d'homme d'État. Les mensonges, puisqu'ils sont souvent utilisés comme des substituts de moyens plus violents, peuvent aisément être considérés comme des instruments relativement inoffensifs dans l'arsenal de l'action politique et peuvent fort bien servir à établir ou à sauvegarder les conditions de la recherche de la vérité.
Donc, texte lu par Adèle Vendrette, un texte de Hannah Arendt. Hannah Arendt disait d'ailleurs que finalement la liberté d'expression était une farce si elle ne se basait pas sur des vérités, si on n'était pas d'abord d'accord sur des vérités de fait. Donc ça, c'était le minimum. Mais vous dites que la vérité est politique.
Hannah Arendt introduit, disons, je dirais, dans la philosophie contemporaine, à nouveau ce débat qui est en partie ancien et justement est en partie ignoré des rapports entre vérité et politique avec un essai que vous citez là, écrit en 1967, là aussi sous la pression de certains événements dans la politique américaine, de fake news, des dossiers cachés au public, etc. Et c'est ce qu'elle dit, c'est dire la vérité justement ne doit pas être une notion politique parce que ça pourrait être dangereux pour ce que je disais avant, enfin parce que ça peut devenir coercitif, ça peut empêcher l'expression de certaines opinions. Donc, il faut aller mollo avec la vérité en politique. politique, mais quand même, il faut au moins partager des vérités factuelles. Enfin, si
mais vous, aujourd'hui, vous allez plus loin.
Moi, je vais un peu plus loin.
Parce que vous avez vécu l'émergence d'Internet et des réseaux sociaux que peut-être n'a pas vécu Anna.
Oui, d'abord, c'est parce que je pense que j'ai une conception plus complexe de la vérité. Vous avez cité Quine, moi je viens d'une tradition philosophique, enfin une tradition plutôt qu'on appelle analytique, anglo-saxonne, enfin, dans laquelle la vérité, on l'a étudiée comme les physiciens ont étudié l'énergie, nous on a étudié la vérité, donc c'est un concept complexe. Enfin, donc maintenant que j'entends tout le monde parler de vérité, ça me fait un peu rire, enfin je veux dire, la vérité c'est complexe, enfin, c'est un concept, c'est une propriété des énoncés, elle est où? Elle n'est pas dans la réalité, elle est dans les énoncés, enfin c'est un truc très complexe. Lorsque je dis la vérité en question politique, qui peut être vue comme un message un peu provocateur, je veux dire justement, la vérité c'est une notion complexe, il n'y a pas des faits, même les faits les plus simples ont une partie de construction qui est sociale, politique, culturelle,
etc. 2 plus 2 égale 4 même, n'a pas de construction. Ou le réchauffement
mais
climatique.
2 plus 2 4 aussi, c'est ce que Quine disait. Difficile d'établir les faits, distinguer les faits des conventions. L'égalité, le signe d'identité, c'est une convention. Vous pouvez avoir des systèmes mathématiques qui n'ont pas les signes d'identité. Et les plus aussi, c'est une convention. Donc en fait, je pense que ce que j'ai dit, c'est incompréhensible parce que c'est sophistiqué. Enfin, donc, c'est pour ça que je ne suis pas une star de TikTok. Enfin, c'est très difficile de voir la vérité comme ça. Oh, voilà, j'ai devant les yeux la vérité. À chaque fois, la vérité, ça comporte une certaine mesure de négociation. Enfin, même la vérité factuelle, et bien sûr, même les vérités scientifiques, les vérités mathématiques, etc., qui sont des vérités qui évoluent. Il ne faut pas oublier que la vérité n'est pas donnée.
On l'a bien vu, par exemple, pendant la crise du Covid.
En crise de la Covid, on était dans une situation de grande incertitude qui est la situation dans laquelle la science travaille, tout le temps.
Mathias Girel.
Oui, alors je partagerai une grande partie de ce constat et de cette analyse. Et après, peut-être que pour reprendre quelque chose qui vient de chez Quine aussi, je pense qu'il y a des énoncés ou des croyances, peut-être des faits qui sont moins révisables que d'autres. Par exemple, je sors d'une expérience ferroviaire, c'est un fait que le réseau ferroviaire français est centré sur la ville de Paris. Alors peut-être que ça pourrait être d'une autre opinion, mais en tout cas, je vais avoir un grand nombre de données qui pourront militer en ma faveur. Ou pour prendre un exemple qui est dans le texte d'Anna Arendt, on peut avoir toutes les versions contradictoires de l'histoire qu'on veut, mais il n'y a pas de récit de la Seconde Guerre mondiale qui dit que c'est la Belgique qui a envahi l'Allemagne.
Ouais. Vous voyez, un minimum factuel donc après, sur lequel il faut s'entendre.
Mais après, il faut se demander comment les faits sont stabilisés, c'est-à-dire comment ils acquièrent un peu cette autorité ou cette stabilité. Mais on est dans une situation très différente de moments un peu de sidération, de panique. Si on se reporte au premier mois de 2020, on a ce virus, est-ce qu'on peut se vacciner, est-ce qu'il va tuer tout le monde, enfin, quelle ampleur il va prendre. Bah, là, forcément, les énoncés sont.
Tant que la science n'a pas encore parlé ou n'a pas fait son travail, on ne peut pas débattre alors.
Mais je pense que après, je suis tout à fait d'accord sur l'idée de révisabilité. La science s'auto-corrige au fil du temps et il n'y a pas d'énoncé qui soit sacré. Mais certains, à un moment donné, sont quand même plus stables que d'autres parce que beaucoup d'autres énoncés en dépendent, beaucoup d'observations s'y rapportent. Et juste le dernier point que je voudrais dire là-dessus, c'est que les États, depuis plusieurs siècles, stabilisent des faits. Les instituts de statistiques nationales, la comptabilité publique. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas une vérité révélée. Mais en tout cas, c'est...
Alors, ils stabilisent des faits quand c'est des faits scientifiques. Les deux institutions que vous venez de citer le font. Mais par exemple, quand ils stabilisent des faits historiques, le roman national, là, c'est autre chose. On est dans un registre de la vérité beaucoup plus mouvant et suspect.
Oui, d'où l'intérêt d'un discours nuancé qui ne met pas sur le même plan tous les énoncés et tous les faits. Et voilà, en les plaçant pêle-mêle tous ensemble.
France Inter, en quête de politique. Thomas Legrand.
Les mots sont des pièges. Est-ce qu'il y a un sentiment de submersion ? Dans les sondages, les deux tiers des Français expriment ce sentiment, mais on ne retient dans cette expression que le mot de submersion et non celui de sentiment. Nous ne pouvons écarter ce que nos concitoyens éprouvent et expriment.
Nous sommes toujours avec deux philosophes aujourd'hui, Mathias Girel et Gloria Origi et nous dissertons, nous réfléchissons sur le statut de la vérité en politique. Là, on vient d'entendre Patrick Mignola, qui est le ministre des Relations avec le Parlement et qui essayait d'expliquer le mot, le terme, sentiment de submersion utilisé et qui a fait polémique cette semaine, utilisé par le Premier ministre. Gloria Origi, voilà, la submersion migratoire n'existe pas d'un point de vue technique, d'un point de vue numérique. Donc ça, c'est pas vrai, la submersion, c'est un mensonge, mais le sentiment de submersion existe, c'est-à-dire que c'est une vérité politique. Alors, une vérité politique peut être basée sur un mensonge factuel. Comment on se débrouille avec ça?
Mais moi, enfin, quand je serai les chefs du monde, je vais éliminer les mots vérité du vocabulaire. Enfin, parce que là aussi, ce n'est pas une vérité politique. Enfin, ce n'est pas du tout une vérité politique. C'est un mensonge, mais il
le
est
Le titre
vrai,
de votre livre, c'est quand même « La vérité
oui, est une question politique », ça veut dire que c'est compliqué. Quoi. Ouais. La vérité, c'est compliqué. Mais je dis, dans le cas où vous faites, moi, je pense qu'il ne s'agit pas d'une vérité politique.
Une réalité politique, alors, on pourrait dire.
C'est une réalité politique ou sociale que les gens ont des sentiments complexes vis-à-vis de personnes qui viennent d'ailleurs. Et donc, c'est plus saliant un acte qui vient d'une personne qui est étrangère, par exemple, par rapport à un acte commis par une personne qui est de la même nationalité. Enfin, ça m'arrive même dans mon syndic de copropriété. S'il y a quelque chose qui va mal, ils ont la tendance à penser que c'est moi parce que je suis italien. Et donc, voilà, donc c'est des sentiments qui existent. Ouais. Il y a eu des stratégies politiques qui ont, disons, profité de ces sentiments.
Alors là,
c'est plutôt une stratégie politique de transformer ces sentiments en réalité politique, ce qui a été la stratégie de l'extrême droite un peu partout en Europe, dans le monde, aux États-Unis, c'est de prendre ces sentiments et dire, bon, enfin, je m'en fiche des statistiques, je prends les sentiments des gens et j'en fais quelque chose. Enfin,
c'est oui, mais ce quelque chose se traduit par, alors, peut-être pas une vérité, mais une réalité politique, le vote pour l'extrême droite, où on a vu que la fabrication du racisme, c'était ça aussi. Et le racisme est une réalité, sans être une vérité, c'est une réalité politique. Comment on fait, Mathias Girel, pour différencier réalité et vérité?
Oui, mais je pense qu'il faut repartir de l'analyse de ce que font les mots. Et là, donc les discours que vous venez de nous reproduire, il y a quelque chose de très curieux. Le mot de submersion, il est quand même extraordinaire.
Enfin, métaphore hydraulique.
Très employé, mais oui, métaphore hydraulique. Mais on imagine que si on est à bord d'un sous-marin et que le capitaine, le commandant dit on prend l'eau de partout, bon, bah, c'est l'urgence de tout le monde de se mettre sur le pont et de réparer les choses. Or, si je vais m'écarter pendant 20 secondes de mon rôle de chercheur, je parle davantage en tant que citoyen, on a un Premier ministre qui a été haut commissaire au plan pendant deux ou trois ans. Bah, si c'est l'enjeu majeur que rencontre notre pays, quel est le plan?
Non,
quelle est l'analyse?
Il dit qu'il faut traiter le sentiment. Et le sentiment, il faut bien le traiter. Alors évidemment, avant que ce sentiment existe, il a été fabriqué, on pourrait s'interroger sur comment il a été fabriqué. Mais le sentiment de submersion, c'est une réalité politique qu'il faut traiter. Comment on le traite?
Alors, après, il y a une deuxième chose qu'il faut dire, c'est qu'on peut être d'avis différent là-dessus. Moi, je pense qu'un sentiment ne nous renseigne pas forcément sur ce qui le motive, ou sur les facteurs objectifs qui peuvent le déclencher ou l'encourager. Et là, bah, justement, ça devrait être l'occasion de discussion. Ce sentiment, quel est-il? Est-il exagéré? Sans doute. Le sentiment de submersion, c'est quoi? C'est d'avoir des étrangers, d'avoir des immigrés, d'avoir des gens qui sont tout aussi français que nous, qui n'ont pas la même couleur ou pas le même accent ou ces choses-là. Et quand on agglutine toutes ces choses-là dans un sentiment de submersion, eh bien, on interdit tout, il me semble, tout discours intelligent et toute réponse aux problèmes, aux inconforts, ou peut-être qu'une solution du problème, c'est de montrer qu'il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, on s'interdit ce type de ressources et bah, la démocratie, ça prend du temps. Et le temps, bah, il consiste parfois à désosser les problèmes, à montrer qu'il y en a plusieurs, ou plusieurs sentiments qui se mêlent dans une même réalité, que certains admettent une solution rapide, certains ne sont fondés sur rien ou pas grand-chose, etc. Il faut désosser, et ça, normalement, bah, c'est le rôle des politiques qui jouent le rôle d'intermédiaire, et pardon, mais c'est aussi le rôle de la presse. Mmh. C'est-à-dire de peut-être pas... Là, encore une fois, qui ne va pas nous révéler avec une autorité dont on ne voit pas d'où elle viendrait des faits dans leur nudité, dans leur brutalité, mais en tout cas qui met à l'épreuve des discours.
Donc Gloria Origi, finalement en parlant de sentiment de submersion, François Bayrou a mélangé et a confondu réalité et vérité, réalité politique et vérité. Et là, on comprend pourquoi vous honnissez le mot de vérité.
Disons, je trouve en général qu'on arrive au premier quart du XXIe siècle avec des outils conceptuels pour comprendre ce monde qui sont d'avant la Première Guerre mondiale. Enfin, c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal, enfin, parce que aller regarder le monde, le lire avec vrai, faux, beau et laid, etc., et bon et mauvais, c'est difficile de comprendre les choses comme ça. Là, vous parlez, moi je pense, d'un phénomène qui est très intéressant, ce qui d'ailleurs touche à la définition qu'on avait donnée au début de post-vérité. On est dans une phase dans laquelle les sentiments, les émotions qui n'étaient pas partis du débat, disons, du
rationnel,
enfin, qui est encore le point de référence qu'on a pour décrire un débat démocratique, etc., sont entrés en force dans les débats politiques. Les sentiments n'ont pas été le cœur, justement, du débat démocratique, rationnel, etc., mais ils ont été au cœur d'un autre phénomène, qui est un phénomène qui s'est développé dans les démocraties et dans le totalitarisme, qui était la propagande. Enfin, donc, ce n'est pas complètement nouveau.
Oui, c'est pas nouveau, parce que la propagande...
Au début du XXe siècle, aux États-Unis, mais avant en France, avec des gens comme Gabriel Tard, etc., puis aux États-Unis, avec Lippmann, etc., on se rend compte, ben, maintenant les masses peuvent voter, et donc il faut les endoctriner. Enfin, oui. Donc il faut jouer sur les sentiments. Donc il y a eu un grand développement des techniques, ici on les voit à leur maximum d'expression grâce aussi aux nouvelles technologies. Mais disons, ça fait déjà un siècle que la gestion des sentiments est devenue politique à travers la propagande, dans les démocraties comme dans les dictatures.
Oui, Mathias Girel, est-ce que le fait qu'aujourd'hui on s'interroge avec plus d'angoisse sur la question de la vérité, le poids de la vérité et le poids du mensonge, est-ce que c'est dû aussi à la fin des grandes idéologies globalisantes qui offraient finalement des schémas et des réponses à tout et qui mélangeaient d'ailleurs des vérités et des mensonges, des utopies aussi, des utopies qui doivent forcément, c'est leur nature, prendre une certaine distance avec la vérité factuelle, avec la réalité d'aujourd'hui qu'on ne supporte plus et qu'on veut changer. Quand on veut changer la réalité, on doit prendre quelques distances avec les vérités. Est-ce que c'est la fin de ces grands schémas globaux qui fait qu'on a une grande angoisse aujourd'hui sur cette différence vérité-mensonge?
Oui, alors, cette thématique de la fin des grands récits, on la trouve depuis plusieurs décennies. Lyotard, dans La Condition postmoderne, en parlait. Ah bon, ça, c'est une question, effectivement, qui va intéresser les philosophes, ou peut-être les grands systèmes de pensée, ou les grands partis politiques qui étaient assis sur un système de pensée. Mais je pense qu'il faut revenir un tout petit peu en amont de votre question, et par rapport à ce que disait Gloria Origi. Moi, je pense qu'il faut bien réfléchir avant d'accepter le constat selon lequel nous vivrions dans une ère de post-vérité. Je suis complètement d'accord sur l'importance des sentiments, des émotions et sur la nécessité de les prendre en compte. Mais moi, j'étais assez mal à l'aise à partir de 2016 avec les couvertures qui disaient « ça y est, il n'y a plus de faits » ou « la vérité ne compte plus du tout dans nos vies ». Pourquoi ? Parce que c'est l'outil privilégié des démagogues et des tyrans que de dire « puisqu'il n'y a plus de faits, plus de vérité », dans ce cas-là, toute opposition à ce que je dis est nul et non avenu.
Faire de grand relativisme.
Je pense que le relativisme peut être un outil puissant à la faveur des tyrans. Et vous avez cité le mage du Kremlin, le roman qui s'inspire de la figure de Vladislav Surkov, qui était un des stratèges de Vladimir Poutine.
Le mage du Kremlin de Giuliano D'Ampoli.
Oui, exactement. Et lui, sa stratégie, alors ce n'est qu'une des voies de la propagande, mais ce n'est pas tant de convaincre du faux, persuadé du faux, que de semer de la confusion à tous les étages. Semer de la confusion à tous les étages en soufflant le chaud et le froid, en allant soutenir des ligues de défense des droits de l'homme le matin et en allant défiler avec des ligues nationalistes le soir. Et face à ça, vous avez une opinion...
La théorie du fil de fer, c'est-à-dire tordre la société par ses deux bouts pour pouvoir la rompre.
Et exactement. Et donc, face à ça, comment vous voulez vous déterminer en tant que citoyen ou citoyenne à quoi vous allez vous opposer, à celui du matin ou à celui du soir? Et donc, il y a un effet de tout ça, qui est, je pense, un effet de sidération. Et on a bien vu quand Trump, le jour de son arrivée au pouvoir, a égrené une centaine, je crois, de décrets présidentiels, oui, dont certains étaient encore plus ubuesques que les autres. Bon, bah, comment vous voulez répondre à ça? Et donc, soit vous avez une démobilisation, c'est-à-dire que on ne parvient plus à s'unir autour de certains énoncés ou de certains intérêts qu'on croit partager avec d'autres, soit le rassemblement, il se fait autour peut-être de pulsions beaucoup plus élémentaires. Le « eux », le « nous », les oui, méchants, les gentils, etc.
Oui, basique. Eh bien, de confusionnisme, il en sera question juste après Fontaine d'ici, Bug. Fontaine d'ici, Bug sur France Inter.
Enquête de politique. Thomas Legrand.
Nous sommes toujours avec Mathias Girel, philosophe, historien des sciences et auteur de « Sciences et territoires de l'ignorance » aux éditions Quae, et avec Gloria Origi, philosophe, chercheuse au CNRS et autrice de « La vérité est une question politique », c'est chez Albin Michel.
Quelle horreur, cette potion de vérité!
Cette potion de...
De vérité!
De confusion.
Pardon?
Cette potion de confusion, qu'est-ce que vous racontez?
J'avais compris vérité, moi.
Non! Confusion.
Alors?
Et alors, quoi alors? Alors on a dit n'importe quoi, on était confus. T'es confus comme la confusion.
Voilà, vous avez peut-être reconnu la série Kaamelott. Et de confusion, et il en est question donc avec le philosophe Harry Frankfort. Je vous propose d'écouter ce philosophe américain qui a théorisé le bullshitisme, le, on pourrait dire, n'importe quoitisme. C'est en 1986.
Ça consiste en un manque d'intérêt pour la différence entre la vérité et ce qui est faux. La motivation du bullshitter n'est pas de dire la vérité, ni même de dire des choses fausses. Mais son ambition est ailleurs. Et la question de savoir si ce qu'il dit est correct ou non est hors sujet. Le bullshitter n'est pas forcément un menteur. Il peut tout à fait penser que ce qu'il dit est vrai, et il peut ne pas songer que c'est faux. Je ne sais pas si le bullshit est plus répréhensible que le mensonge, mais c'est d'une certaine façon une menace plus insidieuse, parce que le menteur sait ce qu'est la vérité, et il cherche à éloigner les gens d'elle. Ceci montre déjà une forme de respect pour la valeur de la vérité. Le bullshitter, lui, n'en a rien à faire, et cela constitue une menace plus importante pour le respect de la vérité.
Gloria Origi, le bullshitisme, ça s'est apparu donc dans les années 80. Finalement, la vérité, le mensonge, un peu comme ce que nous expliquait Mathias Girel avant la chanson, la vérité, le mensonge, peu importe, bullshit.
Moi, je pense que c'est un concept plutôt bien trouvé, plutôt robuste. Enfin, c'est comme il dit dans l'extrait.
Ah, bah, il survit aujourd'hui avec Trump.
Et on
notamment.
L'utilise encore. C'est très difficile de mentir bien, on sait bien, en connaissant la vérité. Ça veut dire que ça requiert une certaine responsabilité, le mensonge. Enfin, si vraiment, quand vous dites le faux. En sachant le vrai, s'engage. Vous sentez aussi le poids moral de mentir.
Et puis il y a une délimitation quand on dit le faux. Voilà, et puis ça veut dire que le vrai existe.
Voilà. Et puis donc après, vous devez cacher les vrais pour protéger votre mensonge. Enfin, donc c'est assez complexe. Donc ça requiert pas mal d'investissements cognitifs, moral, social, etc.
Tandis que le bullshit, c'est plus facile.
Le bullshit, c'est très simple. C'est dire n'importe quoi. Sans savoir absolument ce que le vrai état des choses. Enfin,
mais donc, ce qui est nouveau, c'est que ça ne vous décrédibilise pas. C'est ça qui est.
Oui, d'une certaine façon, ça vous décrédibilise bien. Moi, mais Francfort avait vu juste, c'est ça qui est plus dangereux.
Oui,
enfin, les mensonges d'État, on les connaît. Enfin, on sait que il y a les grands scandales, les Pentagon Papers, les sangs contaminés, je ne sais pas, des choses qui après sont dévoilées. Et on était un peu dans ce schéma-là, enfin, de mise en question de la vérité du pouvoir. Et là, on est dans une mise en question qui est complètement différente, parce que, comme disait Mathias Girel tout à l'heure, enfin, on est le bullshit étant beaucoup moins coûteux que le mensonge, on peut en produire 2000 par jour. Alors, oui. Ça devient très difficile de les contrôler, de les démontrer faux, de les contenir. Enfin, le bullshit, c'est très difficile à contenir. Le mensonge, au fond, c'est un geste plus noble.
Oui, c'est un geste plus noble et plus clair. Harry Frankfurt avait théorisé ça au moment où, juste après la présidence de Ronald Reagan, qui était le premier acteur devenu président et qui donc lisait des textes qu'il avait bien souvent pas écrits. Mathias Girel, quand on parle de bullshitisme, c'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui le confusionnisme, qui est le thème de cette émission. Vous expliquez que le confusionnisme a aussi un objet démobilisateur.
Oui, mais c'est celui qu'on expliquait à l'instant, par rapport à quoi vous allez vous positionner si vous ne pouvez plus faire de distinction. C'est-à-dire, vous ne pouvez même pas identifier ce dont parlent vos adversaires ou vos interlocuteurs. Vous ne pouvez pas faire de différence entre des énoncés parce que vous êtes sidéré, parce que justement, vous n'arrivez plus à faire ces différences. Et donc, ça interdit tout agir politique en commun. Donc là, ce dont on parlait à l'instant, la distinction entre le bullshit et la foutaise, disons, et le mensonge, elle est intéressante parce que, comme vous l'avez souligné, le mensonge, bah, il est coûteux parce qu'on ne peut pas se contredire, par exemple. Et c'est très coûteux, une fois qu'on a fait un énoncé, qu'on est lancé dans un mensonge, bah par cohérence, on va être obligé de produire beaucoup d'autres mensonges. Alors qu'effectivement, si on dit n'importe quoi, je pense que ça désactive trois choses qui sont essentielles dans la parole politique. Il n'y a pas de correction. Si je peux dire n'importe quoi, bah jamais je vais me corriger. C'est juste un autre énoncé, c'est un nouvel énoncé.
Oui,
il n'y a pas d'amélioration.
Même la vérité fait partie du n'importe quoi.
Il n'y a pas d'amélioration d'enrichissement du constat, de l'analyse. Il n'y a pas de propos qui permettrait de dire « Ah ben, bah, on pensait ça au départ, et puis on a écouté un peu tout le monde, on a fait un petit tour dans la population, on a consulté des experts, et maintenant, c'est ça notre nouvelle analyse. » Donc, pas d'amélioration. Et surtout, je pense que c'est ce qui soucie Francfort, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité, et moi, pour dire le fond de ma pensée, je trouve qu'on devrait parfois réhabiliter la notion de mensonge, la catégorie du mensonge. Parce que si on pense à la rubrique de check news, ce genre de choses qui sont très utiles, hein, qui mènent un travail salutaire, mais très souvent, on s'arrête au fait que quelqu'un a dit une contre-vérité. Ou un propos inexact, ou un propos trompeur. Mais bon, quelqu'un qui tient un propos trompeur en connaissance de cause, bah, y a un nom pour ça depuis l'Antiquité. Ça s'appelle quelqu'un qui ment, et normalement le mensonge, devant des juridictions, dans une démocratie, devant une assemblée, ça expose normalement à des conséquences. Et donc si on renonce à faire valoir ces conséquences, c'est pas un problème qui relève de la connaissance uniquement, de la pure connaissance, c'est pas un pur problème épistémique, c'est un problème politique.
Mais c'est pas si simple, parce que depuis le début, on s'interroge par exemple sur la différence entre la vérité factuelle, la vérité des faits, et la réalité politique. Et Gloria Origi nous disait que le mot vérité posait problème. Mais à l'inverse, on peut aussi s'interroger sur la différence entre une contre-vérité et un mensonge. Il y a une zone grise. Et c'est compliqué de mettre une limite, en tout cas une limite légale.
Alors, oui et non, parce qu'en fait, quelqu'un qui, de par sa fonction, doit avoir connaissance de certains faits ou de certaines interprétations des faits, dès qu'on a des responsabilités, c'est notre cas, et qui dit autre chose, bah, soit le fait en connaissance de cause, c'est un mensonge, soit dans ce cas-là, eh bien, nous ment, en fait, sur le devoir de vérification qu'il aurait dû faire ou de consultation, et donc il nous ment, il ou elle nous ment sur ses compétences.
France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
Nous sommes toujours avec deux philosophes aujourd'hui, Mathias Girel et Gloria Origi, et nous réfléchissons jusqu'à 19h sur la notion de vérité. Gloria Origi, puisqu'il faut réhabiliter la vérité, les faits, et vous dites que la vérité est même à conquérir comme on a conquis la justice et la liberté. Les combats des deux ou trois siècles précédents, des progressistes, disons, pour parler large, c'était de d'abord conquérir la justice, puis la liberté. Maintenant, la vérité, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je veux dire qu'aujourd'hui, la vérité doit avoir une place en politique, peut-être sous un autre nom. Je ne sais pas si c'est une notion qu'il faut garder dans notre interprétation du monde, mais aujourd'hui, quelque chose de l'ordre de la vérité, d'une capacité de discriminer entre vrai et faux, a un rôle politique majeur, et donc je pense que c'est un chantier, enfin, de comme ça a été un chantier formalisé et accepté un concept de justice ou de liberté, sur lesquels on discute encore d'ailleurs, etc. Pareil, ma question reste, enfin, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit on veut la vérité, qu'est-ce que ça comporte, quels sont les efforts collectifs du point de vue du politique, mais aussi du point de vue des citoyens, etc.
Et qui va mettre le sceau?
Et quelles sont les conséquences pratiques? Enfin, je veux dire, il y a des systèmes, moi ça fait 30 ans que j'étudie les sorts d'Internet et de tout ça, enfin, il y a eu des systèmes qui ont eu une certaine qualité, comme on dit en philosophie, épistémique, ça veut dire d'améliorer l'état de vérité, enfin, du monde, comme prenez Wikipédia, et des systèmes qui ont été désastreux, comme les réseaux sociaux, oui, à la Facebook ou à la X. Là, par exemple, est-ce que, étant donné ce constat, donc des dommages épistémiques sur la société, etc., est-ce qu'on ne pourrait pas, disons, aussi repenser la société avec ses structures, avec ses médias, avec ses moyens de communication, avec ses pouvoirs, pour faciliter un rapport plus transparent avec la vérité qui est aujourd'hui essentielle? Enfin.
Mais alors là, ça veut dire qu'il faudrait reconnaître qu'il y a une armée de scientifiques, qu'il y a certains journaux, qu'il y a des gens qui sont là pour établir la vérité factuelle, journalistiquement ou scientifiquement. Est-ce qu'on risque pas de tomber dans une sorte, justement, qui est très dénoncée aujourd'hui, de technocratie?
Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, ça, c'est les vrais risques. C'est pour ça qu'il faut aller mollo avec la vérité. Enfin, tout le monde la demande, mais il n'en faut pas trop. Et puis, demander à un ami iranien si le New York Times, qui est pris normalement comme référence de source vraie dans toutes les expériences de psychologie politique, etc., qui mesure les fake news, etc. Enfin, on prend comme référence le New York Times. Demandez à quelqu'un qui habite en Iran ou en Azerbaïdjan il vous dira que le New York Times ne comprend rien de ce qui se passe là-bas, qui ne dit que des bullshit. Donc en fait, c'est très mauvais de penser qu'il y a les trésoriers de la vérité quelque part. Moi, je crois encore à la méthode scientifique, mais justement, la méthode scientifique, ce qu'elle m'a appris, c'est plutôt qu'il faut rester très sceptique, qu'il faut être capable de penser que les vérités changent, qu'elles évoluent, etc. Donc, l'exigence de vérité est une exigence qui va avec un besoin d'apprendre aux gens qu'est-ce que la vérité, ses méthodologies, comment on peut être sûr qu'une information qu'on consomme sur Internet est vraie ou fausse. Enfin, il y a des... Et de l'autre côté, je pense que la vérité, comme on l'a entendu pendant longtemps, surtout dans la démocratie libérale, doit être quelque chose de public. Et c'est donc seulement des formes d'intelligence collective bien organisée qui pourraient gérer le poids de la vérité, comme on a vu avec Wikipédia et d'autres expériences. Et si la vérité est privatisée quelque part, etc., ça ne marchera jamais.
Est-ce que, Mathias Girel, il y a un risque de technocratie ou à vouloir qu'il y ait une armée de certificateurs, qu'ils soient historiens, scientifiques, journalistiques, avec des labels ?
Déjà, je ne pense pas que nous vivions totalement dans une ère de technocratie. Un des problèmes, c'est souvent parfois que les problèmes ne sont pas instruits ou que quand des faits arrivent, ils sont jugés inconfortables par nos gouvernants. Enfin, je pense qu'il faut tempérer un peu le pouvoir des technocrates dans nos sociétés aujourd'hui par rapport à d'autres dynamiques beaucoup plus fortes dont on a parlé plus tôt. Donc ça, ce serait un premier point. Je me méfie aussi, alors, tout en partant d'un autre point de départ, mais je pense comme Gloria Origi, de l'usage offensif ou polémique du terme de vérité. Il y a un autre qui ressemble, même s'il n'a pas le même sens, c'est les gens qui se réclament du bon sens.
Ah oui,
Trump l'a fait. Et dans ce cas-là, si vous êtes contre moi, ça veut dire quoi ? Vous êtes un farfelu, vous êtes un fou, vous êtes un extrémiste. Donc, attention.
Le bon sens et le sens commun sont des mots très utilisés. Donald Trump les a utilisés.
Oui, je fais référence justement.
Oui, et beaucoup de politiques à droite plutôt utilisent ce terme de bon sens.
Voilà. Et ensuite, un autre point avec lequel j'étais en accord, c'est que on a eu pendant longtemps, c'est peut-être un héritage de la guerre froide, peut-être que ça remonte avant ça, au 18e siècle, mais un schéma que les philosophes, historiens des sciences appelaient le modèle linéaire. C'est-à-dire, une fois que la vérité scientifique est stabilisée, il y a une politique et une seule qui en découle. Et ça, on sait que c'est pas vrai.
Ça, c'est le TINA de...
Oui, there is no alternative.
Voilà.
Il n'y a pas de voie de rechange, il n'y a pas de solution de rechange. Et on voit dans tous les exemples que c'est faux. Parce que, par exemple, si on dit brûler de l'énergie fossile, ça augmente le réchauffement climatique, il y a énormément de voies politiques, et on le voit bien dans le débat contemporain. Vous pouvez construire des centrales nucléaires qui vont produire moins de CO2, de dioxyde de carbone pour produire votre électricité. Vous pouvez être décroissant, vous pouvez dire il faut consommer moins d'énergie et puis on va mieux s'en sortir. Vous voyez que déjà, ça fait deux lignes.
Donc une vérité scientifique n'entraîne pas une vérité bien politique ou une ligne politique. Et c'est peut-être là la question. Le problème, c'est de baser son programme politique sur des résultats scientifiques. Mais justement, est-ce que, je reviens à ma question, oui. La mort des idéologies fait que la plupart des gouvernants ne débattent plus de savoir vers où on doit aller, mais ils débattent en expliquant que eux peuvent retrouver le pouvoir, que eux peuvent avoir les manettes et qu'ils se basent, eux, sur la vérité. Donc,
on n'est pas du tout dans la mort des idéologies. C'est, regardez, il y a un essayiste qui s'appelle Yevgeny Morozov, qui a écrit il y a 10-15 ans, et même un peu plus que ça, sur l'idéologie de la Silicon Valley. Mais on est quand même en plein là-dedans. Pour une partie du monde. C'est-à-dire, il faut gérer les États comme des start-up. Une autre idée, il y a trois idées. Donc la première, je viens de l'énoncer. La deuxième, c'est une forme de techno-solutionnisme. Tout problème politique doit pouvoir recevoir une solution technologique. C'est le deuxième article de foi. Et on voit bien comment ça travaille
mais
en
ça,
ce moment.
C'est des méthodes, c'est pas des buts.
Oui, mais c'est une
ça,
vision.
Ça ne dit rien du but.
Il y a une vision du monde là derrière, et il y a une vision des relations de pouvoir, de comment on s'adresse à des gouvernés aussi. Et puis le troisième point, c'est une sorte d'internet-centrisme, c'est-à-dire tout ce qui ne trouve pas son expression quelque part sur Internet n'existe pas ou n'existe pas vraiment. Et ça, ce sont des moteurs extrêmement puissants, me semble-t-il, du monde dans lequel nous vivons. Alors, c'est pas l'idéologie soviétique qui finit de mourir. écrire dans les années 80 ou au début des années 90, c'est pas le maccartisme, c'est pas ce genre de choses. Mais en tout cas, ce sont des moteurs extrêmement puissants de la société dans laquelle nous trouvons. Elon Musk, aux États-Unis, il est en train d'essayer de donner des coups de tronçonneuse dans l'État fédéral au nom de ses principes.
Oui.
Voilà, on va se mettre avec 5 ou 6 génies de l'intelligence artificielle ou de la programmation ou de ce genre de choses.
Alors il affirme que c'est pour être plus efficace et oui. Il ne donne pas un but, il n'a pas une vision très précise de la société, mais c'est peut-être ça d'ailleurs le piège.
Il a une idéologie assez précise qui gouverne son action, je pense.
Ça fait partie du confucianisme.
Il y a peu de débats là-dessus.
Gloria Origi, vous citez Carl Sagan qui dit que la science est loin d'être un instrument parfait de la connaissance, c'est seulement le meilleur que nous ayons, un peu comme la démocratie. C'est ce qu'il faut se dire pour conclure, c'est-à-dire se baser quand même sur la science, même s'il ne faut pas tout mettre sur la science, et il ne faut pas que le projet politique émane uniquement de résultats scientifiques.
Moi je pense que la science est surtout une méthode, comme la démocratie. Ça veut dire que c'est des procédures, la démocratie. Ce n'est pas seulement des idées, c'est des procédures. C'est que vous pouvez parler, mais après, l'autre doit parler aussi, et on vote, il faut un certain nombre. Donc, la science est une méthode des procédures, et la démocratie est une méthode des procédures. Et c'est parce qu'il y a une méthode, parce qu'il y a des procédures, qu'elles arrivent à nous rapprocher un peu mieux, disons, de la vérité, ou bien de la justice dans le cas de la démocratie. Donc, il faut connaître ces méthodes, il faut les améliorer, il faut les aussi mettre à jour. Je pense que il y a trois obstacles aujourd'hui à la recherche de la vérité. D'abord, que la vérité est lente et coûteuse pour établir un fait, établir combien de morts au Rwanda en 94. Il faut des années. Il faut des témoignages, il faut des commissions, il faut des... Donc la vérité est... La vérité de fait et la vérité de même de raison, c'est lente et c'est coûteuse. Il faut investir pour la vérité. Deuxième point, la vérité est compliquée. Il n'y a jamais oui ou non, comme à la télé, quoi. Non, il n'y a pas oui ou non. C'est toujours un peu compliqué, les résultats, enfin. Et la troisième chose, c'est que très souvent, on n'a pas très envie de la savoir.
Eh oui.
Je veux dire, si j'ai une maison à Venise, je n'ai pas trop envie de savoir que dans 10 ans, elle est sous l'eau. Je veux dire, vous voyez, enfin, il y a plein de choses. Si j'ai des enfants, comme c'est le cas, je n'ai pas très envie de savoir que le monde va se exploser pour le climat dans 10 ans ou dans 20 ans. Enfin, il y a des résistances qui sont... émotionnel, culturel, personnel, enfin donc la vérité, humaine. On n'a pas toujours envie de savoir la vérité.
Bien sûr, donc vous nous dites, pour appréhender un peu ce débat très complexe sur la vérité et la politique, qu'il faut être à la fois lucide et patient. Merci beaucoup Mathias Girel et merci beaucoup Gloria Origi. Enquête de politique, c'est fini pour cette semaine. L'émission est réalisée par Christophe Imbert et la documentation sonore est assurée par Franck Olivard, programmation musicale Thierry Dupin et à la technique ce soir Anne-Laure Cochet. Je vous retrouve dimanche, donc après le journal de 18h, pour un enquête de politique consacrée au victimisme. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.